Irving, un dîner littéraire. Quelques jours après cette conversation, M. Buckthorn vint me prendre et me conduit à un dîner régulier d'hommes de lettres. Il a été donné par un grand libraire, ou plutôt par une société de libraires, dont la raison de commerce surpassait en longueur celle de Sidrac, Midrac et Abednego. Je fus surpris d'y trouver réunis de 20 à 30 convives que, pour la plupart, je n'avais jamais vus. M. Buckthorn m'expliqua la raison, en m'apprenant que ceci était un dîner d'affaires, une espèce d'exercice à feu, que la maison donnait à peu près 2 fois par an à ses auteurs. Il est vrai que, par occasion, on invitait quelquefois de petits dîners, 3 ou 4 hommes de lettres, mais c'était en général des auteurs choisis, chéris par le public, et parvenus à leur 6e ou 7e édition. Il y a, dit-il, dans le monde littéraire, certaines limites géographiques. Vous pourrez vous faire une idée assez juste du degré de la faveur politique dont jouit un auteur par la qualité du vin que lui donne le libraire. Vers sa 3e édition, un auteur franchit la ligne du vin de Porto et passe au vin de Bordeaux. Oh, quand il atteint la 6e ou la 7e édition, il en est au vin de Champagne et de Bourgogne. À quel degré sont parvenus, lui dis-je, ces messieurs qui nous entourent? Y en a-t-il quelques-uns qui boivent du vin de Bordeaux? Bon, pas tout à fait, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas tout à fait. Vous trouvez à ces grands dîners la tourbe commune des auteurs, des hommes à 1 ou 2 éditions. Et si quelques autres y sont invités, on les prévient que c'est une espèce d'assemblée républicaine. Vous m'entendez, une assemblée république des lettres. Ils ne doivent s'attendre qu'à des messes simples et substantielles. Ces explications me mirent à même de mieux comprendre les dispositions de la table. Les deux bouts étaient occupés par des associés de la maison. Et l'on semblait avoir adopté l'idée d'Addison pour la préséance littéraire des convives. Un poète chéri du public était à la place d'honneur. Vis-à-vis de lui, un voyageur imprimait une quarto satiné avec planche. Un antiquaire à l'air grave, qui avait publié plusieurs ouvrages solides, citait fort souvent, mais bien rarement. Lui était traité avec beaucoup de respect. Il se trouvait assis à côté d'un monsieur proprement vêtu de noir, auteur d'un joli petit in-octavo satiné sur l'économie politique, devenu à la mode. Quelques hommes à 3 volumes in quarto, 10 octavo, d'un assez bon débit, occupaient le centre, tandis que le bas de la table était garni par de petits poètes, des traducteurs et d'écrivains qui n'avaient pas encore connu une grande célébrité. La conversation pendant le dîner fut tout en boutade et en saillie, qui jaillissait en légères étincelles de toutes les parties de la table et se dissipait en fumée. Le poète, plein de cette assurance d'un homme bien vu dans le monde et indépendant de son libraire, était d'une gaieté brillante et lançait mille traits qui sont éclatés de rire son voisin, un des associés, et qui charmait toute la société. L'autre associé, cependant, gardait son sérieux et cessait de découper avec l'air important d'un homme d'affaires tout entier à l'occupation du moment. Mon ami Bergson m'expliqua la cause de cette gravité. Il m'apprit que les travaux de la maison étaient admirablement bien répartis entre associés. Ainsi, par exemple, dit-il, ce monsieur si sérieux est l'associé tranchant qui distribue les morceaux de la bête, et l'autre est l'associé riant, qui cherchant à faire voir là le même d'esprit. La conversation était surtout animée au haut bout de la table, comme si les auteurs qui l'occupaient eussent possédé une langue plus intrépide. Quant à la foule placée à l'autre bout, si elle ne se distinguait pas en parlant, elle se distinguait en mangeant. Jamais festin ne soutint une attaque plus vive, plus déterminée, plus opiniâtre que celle de cette phalange de mâchoires. Quand la nappe fut enlevée et que le vin circula, ils s'égayèrent entre eux et se livrèrent à la joie. Leur plaisanterie, cependant, si par hasard il en parvenait quelques-unes au bout de la table, il produisait bien peu d'effet. L'associé riant semblait même ne pas trouver nécessaire de les honorer d'un sourire. Ce que m'expliqua mon voisin Blackthorn en me disant qu'il fallait un certain degré de faveur publique avant que les saillies d'un auteur fissent rire un libraire. Parmi cette foule de littérateurs équivoques, placés dans la région inférieure de l'esprit, mes yeux en distinguèrent particulièrement un. Ses vêtements appartenaient presque à l'indigence, quoiqu'il eût évidemment mis tous ses soins à son habit noir râpé, et qu'un énorme jabot bien plissé s'était allé en bouffant sur sa poitrine. Son visage était brun, mais fleuri, un peu trop fleuri peut-être, surtout près du nez, quoique cette couleur rubiconde rendit plus vifs ses yeux noirs et brillants. Il avait quelque chose de l'air d'un bon vivant, joint à cette nuance de pauvre diable qui donne à la gaieté de l'homme un ton extrêmement modeste. Rarement j'avais vu une figure qui promit davantage, mais jamais promesse ne fut plus mal tenue. Il ne disait rien, mangeait et buvait avec le déférent appétit d'un habitant de Galta, et s'arrêtait à peine pour rire des bons mots du haut bout de la table. Je demandai qui il était, et Bergson, le regardant avec attention, « Ma foi, dit-il, j'ai déjà vu cette figure quelque part, mais je ne me rappelle pas où. Oh, ça ne peut pas être un auteur de nom. C'est, je suppose, un rédacteur de sermons ou quelque compilateur de voyages à l'étranger. » « Après dîner, nous nous retirâmes dans une autre pièce pour prendre le thé et le café. Nous y fûmes renforcés d'une nuée de convives d'une classe inférieure, auteurs de petits volumes cartonnés ou de pamphlets brodés en papier bleu. Il n'était pas encore parvenu à l'honneur d'une invitation à dîner, mais on les engageait, par occasion, à venir passer le soir, sans façon. Ils traitaient avec beaucoup de respect les associés, et même ils semblaient craindre un peu. Mais ils faisaient une cour assidue à la dame de la maison, et étaient vraiment fous des enfants. Quelques-uns, qui ne se sentaient pas très à l'aise à cette hardiesse pour s'avancer ainsi, se tenaient discrètement dans des coins, causant entre eux, parcourant des portefeuilles d'estampes qu'ils n'avaient guère vus plus de 5000 fois, ou jetaient les yeux sur la musique posée sur le piano. Le poète et l'auteur du joli petit in octavo étaient les personnages les plus distingués et les mieux à leur aise dans ce salon. C'étaient évidemment des habitants du quartier de l'Ouest. Ils se placèrent aux deux côtés de la maîtresse de la maison, ils lui adressèrent mille et mille compliments pleins de galanterie. Oh, je crus qu'à quelques-unes de leurs politesses, la dame allait mourir de plaisir. Tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait, avait un parfum de bon ton. Je regardai en vain autour de moi pour trouver le pauvre diable d'auteur à abîme m'attrapé. Il avait disparu, immédiatement après que l'on eut quitté la table, craignant sans doute l'éblouissante clarté du salon. Alors, ne trouvant plus rien qui m'intéressât, je me retirai dès qu'on eut servi le café, laissant le poète et l'auteur du petit élégant octavo satiné, maître du champ de bataille.